Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast PwC Focus. Donc, on est ravis de vous accueillir virtuellement aujourd'hui donc pour traiter le thème du jour qui traite des opérations en capital sur des PME patrimoniales et familiales. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger, débattre sur en fait les spécificités de ce type d'opération et de ce type de société cible, et de pouvoir voilà partager un peu notre expérience sur ces spécificités, sur les bonnes pratiques, en tout cas les observations qu'on a pu faire sur la base de nos expériences respectives. Donc j'aurai à mes côtés, je ne serai pas tout seul, fort heureusement, pour avoir des angles de vue différents. Je serai accompagné d'un certain nombre d'experts que je vais vous introduire. Dans un premier temps, Geoffroy Pacaud,
Bonjour.
voilà, qui apparaît à l'écran, qui est associé corporate finance, donc conseil en fusion et acquisition à la cession et à l'acquisition. Donc, Thomas Bortoli, qui est associé de PwC Société d'avocats, spécialisé en droit des sociétés et en particulier sur les opérations de M&A et private equity.
Bonjour à tous.
Bonjour Thomas. Moi-même, je suis associé Transaction Services, donc en charge d'une offre qu'on a construite depuis un an et qu'on a baptisée Private and Family, et je vous en dirai un peu plus. Et notre grand témoin est Nathalie Triolet, qui est directeur d'investissement chez IRDI Capital Investissement. Bonjour Nathalie.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Avant peut-être d'entamer les hostilités, si je puis dire, je vais faire quelques rappels très simples des règles du jeu. Vous avez la possibilité, vous aviez déjà la possibilité au moment de votre inscription d'identifier et de poser un certain nombre de questions. Donc, ces questions nous ont déjà été relayées. Donc, on pourra les traiter le moment venu. Pendant tout le webcast, vous avez également la possibilité de continuer à poser des questions et on les verra de notre côté. Et puis, on les traitera, je pense, plutôt vers la fin de la webcast. Maintenant, on se réserve la possibilité aussi d'en prendre quelques-unes au fil de l'eau si ça tombe tout à fait dans le thème qu'on est en train de traiter. Voilà, donc ça, c'est les aspects logistiques. Deux aspects supplémentaires. Donc, cette session va être capturée en vidéo et en audio, mais en réalité, seule la bande audio sera disponible sur le site PwC, mais ce qui permettra aux uns aux autres de pouvoir participer, en tout cas prendre connaissance de ce qui se sera dit pour ceux qui n'auraient pas pu y participer en live, et puis de réécouter pour ceux qui souhaiteraient réécouter. C'est la première chose. La deuxième, c'est que on est toujours dans un processus d'amélioration continue, donc votre avis est important pour nous. Autrement dit, en fin de session, juste à la fin, on vous encourage à rester une minute de plus pour répondre à un questionnaire de satisfaction, vous puissiez nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez apprécié les intervenants et ce qu'ils ont à nous dire, pardon. On va structurer en fait le débat en trois temps. Le premier temps, simplement pour planter un petit peu le décor et se dire, voilà, de quel environnement parle-t-on? Aujourd'hui, on parle de PME. On parle d'ETI, donc enfin, on exclut, je dirais, les opérations sur des très grands groupes. Dans un deuxième temps, c'est pouvoir échanger sur qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de cet environnement de marché, quelles sont les spécificités de cet environnement-là que nous connaissons tous assez bien. Et puis, le troisième temps sera plutôt consacré à justement les bonnes pratiques, les astuces, les recommandations qu'on peut vous faire en tant que professionnel de ces différents métiers. Le segment de marché qu'on va traiter, effectivement, porte sur les PME, les sociétés patrimoniales, familiales. Et c'est un marché qui, chez PwC, nous intéresse beaucoup, nous a toujours intéressé et sur lequel on a pris la décision en fait de se structurer encore plus depuis à peu près un an, parce que c'est un segment qui est d'une part très dynamique. Le segment des PME est très dynamique. Il y a une volumétrie qui est très importante, donc c'est un marché qui est très profond. Ça fait partie du tissu économique assez fondamental de l'industrie française à Paris et en région. L'expérience nous montre, et c'est vrai qu'à la lumière de cette crise qui nous a apporté un certain nombre d'enseignements dans beaucoup de domaines, que c'est un segment de marché qui est très résilient malgré les à-coups et les vicissitudes, peut-être un peu aidé par les PGE, mais on s'aperçoit que c'est un marché qui reste dynamique et résilient et agile. Et puis parce que c'est tout simplement la pépinière des champions de demain. Voilà, donc sont toutes ces bonnes raisons qui font qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on souhaite être présent et présent durablement sur ce marché, de continuer à évoluer auprès des PME. Donc, ce qu'on va viser principalement aujourd'hui, en particulier, c'est typiquement les opérations qui portent sur des sociétés familiales, enfin capitaux familiaux, patrimoniaux, notamment les opérations primaires, qui sont toujours des opérations un peu plus complexes que la moyenne. Les opérations qui sont faites soit par des investisseurs privés stratégiques, mais également par des fonds d'investissement, le plus souvent d'ailleurs en capital développement, mais également en LBO, donc plutôt sur des petits LBO compte tenu du profil des différentes cibles. Et voilà, et on vise tout type d'opérations, que ce soit acquisition, cession. Voilà, donc c'est ça notre terrain de jeu pour aujourd'hui. Peut-être pour commencer, Geoffroy, je me tourne vers toi parce qu'on va parler origination, donc tout commence par l'origination. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton quotidien, quelle est la stratégie aujourd'hui de PwC Corporate Finance en la matière?
Bien sûr, merci Philippe. Donc PwC Corporate Finance, c'est la partie conseil en M&A de PwC. Ça représente une équipe d'une vingtaine de professionnels en France et de l'ordre de 2500 dans le monde. Et on s'intègre finalement dans le groupe qu'on appelle transaction un peu plus large de conseil en transaction au sein de PwC, qui comprend de l'ordre de 300 professionnels, que ce soit sur le juridique, sur les due diligence, sur l'évaluation ou l'accompagnement des entreprises en difficulté. On est positionné plutôt sur le segment ce qu'on appelle petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire des segments de valorisation entre 10 et 200 millions. Et notre portefeuille de clients inclut à la fois des fonds d'investissement, des corporates et également des entrepreneurs sur ce segment. C'est même une grosse partie du segment. Et on sait qu'avec le baby boom, on en parle depuis maintenant 5 ou 10 ans, mais il y a un vivier très important d'entrepreneurs qui arrivent à l'âge de la retraite et qui sont dans une optique de transmission. Et on sait que pour certains, c'est très bien préparé et ça se fait de façon assez facile, assez naturelle. Pour beaucoup, c'est pas forcément très bien préparé et très bien anticipé, d'où le besoin de conseils un peu comme nous. Une des spécificités de notre équipe par rapport à nos concurrents, c'est qu'évidemment, on s'intègre on est comme une boutique M&A, mais on s'intègre dans le collectif PwC. Donc, on bénéficie à la fois du réseau international de PwC Corporate Finance. On a des équipes dans à peu près, je crois, 65 pays. Et donc, on est capable d'accompagner nos clients, soit sur des acquisitions à l'étranger, mais soit sur des cessions, puisque quand on cède une PME, on peut tout aussi bien la céder à des investisseurs financiers français, mais aussi à des investisseurs internationaux. Et là, on a une vraie valeur ajoutée pour identifier ou approcher ce type d'acteurs. Et puis, on s'intègre dans le collectif PwC France avec le dispositif parisien et régional. Et là-dessus, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le relationnel que peuvent avoir nos associés un peu partout en France avec des dirigeants, puisque la marque PwC inspire confiance et que on est capable de leur proposer toute une palette de services pour eux qui sont globalement souvent assez peu familiers de ces opérations, d'une part, et d'autre part, quand on est un dirigeant et qu'on veut faire rentrer un investisseur au capital, voire transmettre son entreprise, c'est une opération qu'on fait en général une fois dans sa vie, donc il s'agit, un, de bien la préparer, et deux, on n'a pas l'expérience par définition, puisqu'on ne le fera qu'une fois. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel nous, on intervient au niveau de PwC Corporate Finance.
Très clair, merci beaucoup. Nathalie, tu représentes IRDI, qui est un des leaders du capital investissement en France et en région. Donc là, on a avec toi à la fois une représentante du capital investissement et puis une représentante de ce qu'est le capital investissement en région. donc Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie, quel type d'entreprise vous accompagnez, enfin voilà.
Oui, tout à fait. Donc, l'IRDI, créé il y a plus de 40 ans maintenant, est un partenaire de toutes les entreprises du Sud-Ouest. Quand je dis toutes les entreprises, nous allons de la jeune pousse innovante jusqu'aux PME et ETI qui sont présents sur notre territoire, c'est-à-dire les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Durant ces 40 dernières années, nous avons pu accompagner plus de 1400 entreprises, toujours en qualité d'investisseurs minoritaires. Nous avons actuellement 380 millions sous gestion, bientôt 400, qui sont déployés par une équipe de terrain de proximité de 16 investisseurs qui sont répartis en 3 bureaux pour être au plus proche des entreprises et de leurs dirigeants. Un bureau à Bordeaux, un bureau à Toulouse et un bureau à Montpellier, et qui réalise environ une trentaine d'opérations par an. Et à travers toute cette expérience, nous avons pu effectivement développer une expertise dans l'accompagnement en minoritaire des entreprises et des groupes familiaux présents sur notre territoire, notamment nos investissements les plus récents. En fin d'année 2020 ont été dans le groupe Chausson, donc spécialisé dans la distribution de matériaux, groupe familial historique, très belle ETI de notre territoire. Plus récemment également dans le groupe Courcel, spécialisé dans le transport technique et exceptionnel, qui est également une entreprise emblématique de notre région. Et à cette occasion, nous avons pu travailler ensemble, effectivement, pour réaliser cette opération auprès du groupe Courcel et répondre à leurs attentes en tant que groupe familial dirigé par son fondateur et qui vient d'être rejoint par notamment ses fils pour conduire le développement de cette entreprise.
Très bien. Et finalement, à ces deux occasions, puisqu'indirectement, on était intervenu également pour Crédit Mutuel Equity dans l'opération portant sur Chausson Matériaux, qui est là aussi un groupe familial éponyme. Thomas, que peux-tu nous dire sur les avocats de chez PwC ?
Les avocats de chez PwC, aujourd'hui, on est un cabinet qui regroupe à peu près 550 avocats sur toute la France, avec des implantations fortes en région, puisqu'on a 8 sites en tout, Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Bordeaux. Donc, un choix fort qui a été fait d'avoir quand même des ancrages régionaux importants, qui sont souvent les foyers dans lesquels s'épanouissent les PME familiales et les ETI. Le choix stratégique qui a été fait par le cabinet, en fait, est d'implanter donc en proximité des cabinets de droit des affaires full service. Donc, on a des compétences absolument classiques d'un cabinet d'avocat de droit des affaires, avec le droit fiscal, le droit social, le juridique, bien sûr, le M&A Private Equity, mais en proximité. Par exemple, je prends l'exemple du bureau de Toulouse où je travaille. On est une équipe de 12 avocats avec donc, toutes les compétences nécessaires pour accompagner aussi bien les dirigeants que les fondateurs, que les fonds d'investissement ou d'autres personnes dans leur développement. Peut-être aussi ce qui est important, donc cette philosophie de proximité est quand même aussi s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large puisqu'on a accès au réseau de PwC Avocats Monde qui regroupe plus de 170 pays. Et pour des PME ETI, notamment dans le Sud-Ouest, qui sont parfois très liées à l'aéronautique et donc exposées à l'international, la possibilité d'avoir effectivement un avocat déjà qui parle en anglais et qui a la capacité d'aller chercher des ressources dans les pays dans lesquels elles évoluent est très appréciée. Donc le modèle est là et puis on s'inscrit aussi pleinement dans la dynamique private and family dont je crois, Philippe, tu vas nous dire un mot maintenant et qui a été mise en place il y a de ça une année environ.
Ouais, absolument, merci pour ce passage de ballon, Thomas, qui est un concept bien, bien toulousain.
On verra ce soir.
Allons, on va.
Exactement. Non, je pense que ce qui est intéressant d'ailleurs sur notre empreinte en juridique et fiscale, c'est qu'effectivement, on est très présent également en avocat droit des sociétés corporelles par rapport à quelques-uns de nos camarades. Ce qu'on a fait là depuis un an, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'effectivement, moi je suis arrivé il y a un an précisément pour contribuer au développement de notre présence et du développement de nos activités qu'on appelle Deals hein, au sens large. En fait, c'est une communauté qui réunit tous les professionnels qui tournent autour des transactions, que ce soit Geoffroy et ses associés, Geoffroy n'étant pas seul sur le corporate finance et le conseil à la vente et à l'acquisition, les avocats, et puis plus largement, on a aussi évidemment des offres en matière de stratégie, due diligence de marché, etc., cybersécurité, enfin et environnement sur lesquels on est très présent. Et donc voilà, c'est tout cet écosystème là qu'on met à disposition et qu'on a souhaité mettre à disposition plus fortement pour à destination des PME et des ETI. Donc pour ma part, j'ai vocation effectivement à développer ces activités là, que ce soit d'ailleurs à Paris et en région. Et ce qu'on a fait, notre conviction, déjà, c'est que c'est un marché et des entreprises qui s'analysent différemment. Donc, on a voulu aussi mettre en place un dispositif différent. Ce dispositif différent, c'est déjà un groupe de gens qui aiment ce marché, qui ont envie. Et donc, c'est aussi un peu la manière dont moi, j'ai constitué l'équipe qui m'accompagne, c'est de pouvoir identifier des gens on n'a pas fixé un ultimatum, mais qui au contraire ont l'envie de travailler sur ce segment de marché qui est un peu différent, qui est même très différent. Et cette façon différente de travailler, ça passe également par, donc je l'ai dit, la constitution d'une équipe qui est dédiée. Donc aujourd'hui, on est 9 personnes. L'objectif, c'est d'être une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année fiscale, et en rythme de croisière, à terme, on va dire, d'être d'ici 2-3 ans, peut-être une trentaine de personnes, parce que ce marché s'analyse et répond à des logiques qui sont différentes, et on pense qu'il y a un potentiel qui est très fort. Mais évidemment, il faut savoir être pragmatique et répondre aux différents codes de ce marché en termes de besoins de nos clients, en termes également, on parlera de ressources contraintes tout à l'heure, également en termes de en termes de budget, disons-le. Donc on a ce goût et cet intérêt. J'anime une communauté, en fait deux communautés, à la fois en région pour pouvoir parler de deal. Tu l'as dit, Thomas, tout à l'heure, et je crois toi également, Geoffroy, c'est qu'on a une empreinte géographique qui est très forte. Hein. On est présent dans toutes les grandes villes françaises, hein, que ce soit, je vais en oublier forcément, Lille, Metz, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, Rennes et j'en ai certainement oublié, voilà. Et ce qui fait que dans chacune de ces villes, on a des gens qui sont au contact des PME du tissu régional et avec lesquels on a grand plaisir à travailler. Donc c'est un environnement et un segment qui est différent, qui répond à des codes et des modes de fonctionnement qui sont différents. Et puis, voilà, l'observation qu'on a faite un peu en commun, hein, qui était la mienne, qu'on a partagée en préparant cette session, c'est que voilà, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on va développer, et puis chacun d'entre nous pourra apporter sa pierre à l'édifice autour de l'intuitu personnel. On l'a dit tout à l'heure, il y a un fort il y a une relation entre le dirigeant actionnaire et son entreprise, à plus forte raison si l'entreprise est familiale, et encore plus si elle est éponyme, hein, puisqu'elle fait partie du nom de la famille et donc de la famille, et donc il y a un lien extrêmement fort qui existe, donc un rôle assez central. On a également des problématiques liées à l'agenda, et c'est encore lié d'une certaine manière au lien fort qui existe entre le dirigeant et son entreprise, avec un agenda personnel du dirigeant qui peut être parfois confondu avec l'agenda de l'entreprise, et ça, on y reviendra et on verra quels sont un peu les écueils de ça. on est souvent sur des, on parle souvent d'agilité, hein, quand on parle de PME, quand on parle de grands groupes, on parle au contraire d'inertie. Les PME, c'est le monde de l'agilité, ce qui est vrai. Et on est souvent sur des sociétés qui sont très opérationnelles, donc très tendues vers le développement, le concret, la croissance, le contact avec les clients, et donc beaucoup plus orientés sur les aspects très opérationnels plutôt que les process à prendre en parler, qui sont souvent l'apanage des grands groupes. On a également des sociétés qui sont assez logiquement souvent peu exposées au marché des fusions-acquisitions. Tu l'as rappelé, Geoffroy, parce que bah voilà, si on n'a jamais fait d'opération de croissance externe, on a une expérience qui est probablement plus ténue ou plus faible que des groupes qui font des opérations régulièrement. Et puis par définition, on ne vend son entreprise qu'une fois. Alors on peut le faire en plusieurs fois, mais on ne la vend véritablement qu'une fois. Donc c'est vraiment un moment un peu charnière et qui demande d'être entouré. On a des ressources contraintes. Et ça, c'est un peu avec ma casquette d'associé Transaction Services qui fait l'analyse des chiffres au quotidien sur ce type de société. Des informations qui sont moins sophistiquées, donc on y reviendra, mais voilà, on n'a pas nécessairement une granularité d'informations très importante, des reportings très développés, ce qui nécessite aussi de regarder les choses avec cet angle particulier. Le dernier point, et puis on va un peu développer, on est en termes d'intermédiation, donc à savoir l'accompagnement des sociétés dans ces moments clés et notamment la cession, ben on est sur un panorama qui est très différent de ce qu'on peut voir sur des groupes plus importants ou plus structurés avec des conseils qui sont tout simplement pas les mêmes. Longue introduction, pardonnez-moi. Thomas, je vois que tu boues. Oui. Pour nous parler de ce que tu vois, toi, ce que tu perçois quand on parle d'intuitu personnelle, d'affectif, de rôle du dirigeant.
Oui, bah, écoutez, moi, qui ai, je dirais, une expérience professionnelle qui a été variée et qui a commencé sur des deals plutôt large cap quand j'étais avocat à Paris. Aujourd'hui, ce qui me passionne dans mon métier, en réalité, ce sont ces dossiers d'accompagnement de PME ou d'ETI, parce que, mais je pense que ça va être un peu le leitmotiv de ce qu'on va dire ce matin, le fil rouge. On a vraiment affaire, en fait, à des histoires humaines qui sont très, très importantes et où l'humain est vraiment au cœur de ces opérations, peut-être plus que sur des deals de type large cap où on est dans des groupes très processés, évidemment, avec beaucoup d'interlocuteurs et un rapport à l'entreprise qui est différent. Là, on a vraiment affaire à des gens, les dirigeants, qui, pour la plupart, sont soit des personnes qui continuent la longue histoire familiale, soit sont des entrepreneurs qui sont partis de vraiment pas grand-chose et ont réussi à développer leur activité et à l'amener à des niveaux qui justifient à un moment une opération capitalistique d'accompagnement ou de cession, avec des sommes importantes par rapport évidemment à ce que ça représentait initialement lors de la constitution. Si on prend par exemple l'histoire du dossier Courcelles, et Nathalie vous en parlera, mais la personne qui a développé le groupe, il a commencé tout seul avec son camion, avant d'arriver aujourd'hui à un groupe d'une taille significative avec un grand nombre de collaborateurs et un investisseur financier qui a fait le choix de les accompagner dans leur développement. Donc vraiment, il faut comprendre, quand on est conseil de fondateur, mais aussi conseil d'investisseur, que les dirigeants auxquels on s'adresse, l'entreprise, c'est toute leur vie en réalité. Il n'y a pas véritablement de séparation, généralement, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est très affectif pour eux, où ils ont vraiment besoin de contact, d'avoir une relation de confiance avec leur partenaire, quel qu'il soit, avant de pouvoir s'ouvrir. C'est un peu leur bébé, j'ai coutume de dire, leur entreprise, ce qui est bien évidemment différent d'un contexte sur un deal plus large cap ou de séparation d'activités stratégiques. On n'a pas du tout les mêmes approches.
Alors, et d'ailleurs, la session, si je peux me permettre, Thomas, la session est parfois perçue comme une petite mort pour beaucoup. Hein.
Exactement.
Tu parlais du baby boom, le départ à la retraite, pour beaucoup de dirigeants, ça ne veut rien dire. Hein. La retraite à 62 ans, ça ne veut rien dire. Il y a encore beaucoup de dirigeants qui en fait ont 70 ans passés et qui, à un moment donné, se disent bah non, je ne peux pas. Voilà.
Surtout quand, comme je le disais, la vie professionnelle et la vie personnelle ont été toujours très imbriquées l'une avec l'autre. Et où, si tu veux, je dirais la définition sociale du dirigeant et la définition, la manière dans laquelle il s'inscrit dans son environnement est intimement liée à son entreprise. Donc, il n'est pas rare d'avoir des doutes, et ce qu'il faut comprendre et appréhender, un dirigeant qui, d'un côté, dit qu'il souhaite vendre, mais qui, en réalité, a encore des réticences. Donc, voilà, la famille aussi est très importante. Il faut toujours intégrer, et Nathalie l'a rappelé, quand on prend l'exemple de Courcelles, il y a quand même une volonté de transmission, hein, parce que, comme tu le dis, c'est une manière aussi de prolonger son existence et sa vie professionnelle en transmettant à ses enfants le fruit de son travail. Donc, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et je dirais que le dernier élément où l'intuition personnelle doit être pris en compte, c'est que généralement, il y a aussi des liens très importants qui existent entre l'activité de l'entreprise objet de l'accompagnement, de l'investissement ou de la cession, et le patrimoine privé du dirigeant. Classiquement, vous serez très souvent confronté à des situations dans lesquelles le parc immobilier sur lequel se trouve ou est exploitée l'entreprise appartient au propre dirigeant. Et donc, il faut anticiper aussi dans ces opérations la manière dont demain, on gérera ces relations entre un dirigeant qui ne sera plus seul aux manettes, hein, qui sera accompagné par un ou plusieurs investisseurs, et cet actif propriété privée qui sort un peu, on va dire, qui sort même totalement du périmètre de l'opération. Et puis, je vais passer maintenant la parole à Nathalie, parce que l'intuitu personnel et donc l'affectivité du dirigeant se traduit aussi fortement dans son calendrier, qui n'est peut-être pas toujours celui qui appelle l'activité de la société CD.
Oui, tout à fait. On est, comme tu le précises, Thomas, face à souvent des associés fondateurs qui peuvent avoir des calendriers différents et des agendas différents par rapport au développement de l'entreprise, à sa maturité. Nous sommes généralement sur des entreprises créées par une personne physique, faiblement capitalisée, qui peut avoir des besoins liés à son développement et où le dirigeant lui-même a des souhaits personnels liés à son agenda, soit effectivement de plus ou moins retrait de l'opérationnel ou de sécurisation de son patrimoine, qui fait qu'il faut tenir compte dans nos opérations et qui ne sont pas forcément complètement en lien avec les besoins de l'entreprise et de son développement. Nous devons dans ces cas-là anticiper non seulement ces phases un peu structurantes de l'entreprise où peuvent être pris en compte les enjeux de transmission. Ça peut être une transmission générationnelle, mais aujourd'hui on sait que beaucoup d'enfants ne suivent pas forcément le chemin tracé par les parents, ou une transmission managériale qui serait également à organiser. Et nous, dans ce cadre-là, ce qu'on essaye d'apporter, c'est un accompagnement sur le long terme sur les entreprises familiales. Effectivement, je pense qu'il faut avoir la capacité d'être en soutien, en accompagnement sur un temps peut-être un peu plus long que sur des opérations financières plus classiques. Et ça s'accompagne également d'un fort attachement aux valeurs de l'entreprise, à la pérennité de la culture de l'entreprise, de la culture familiale également, d'attachement à son territoire, à ses organisations sociales. Donc, tout ça, nous devons le prendre en compte et le mettre en regard avec l'agenda du dirigeant qui a après, personnellement, ses propres contraintes et ses propres besoins. Cet objectif étant d'assurer quand même la stabilité de l'actionnariat pour la PME familiale ou l'ETI familiale et d'assurer de la pérennité, bien sûr, à l'entreprise. Alors, en plus de cette contrainte d'agenda qui peut différer, on arrive aussi sur des contraintes plus opérationnelles hein, qui peuvent être un élément qu'il faut prendre en compte avec acuité dans le cadre de nos approches auprès de ces entreprises familiales. C'est notamment dans le cadre de nos demandes, de nos exigences, de la dynamique qu'on peut mettre. On est face à des entreprises qui sont et des dirigeants qui ont un volet beaucoup plus opérationnel qu'un volet de process très structuré, d'organisation de l'information. Mais on revient à ce besoin d'amener par notre intervention de la structuration au sein de ces entreprises familiales, de leur permettre d'assurer la pérennité avec une croissance maîtrisée, avec la mise en place de méthodes, d'organisation sur lesquelles on va pouvoir influer. Mais il faut savoir être extrêmement pragmatique et pouvoir aussi s'adapter à l'environnement, à ce qui existe, à ce que l'entreprise a su mettre en place et que l'on puisse évoluer ensemble sur ces enjeux. Et tout ça renforcera, je pense, non seulement bien sûr l'organisation de l'entreprise, mais aussi sa crédibilité dans son environnement économique quotidien, que ce soit envers ses banquiers, mais également ses clients, ses fournisseurs, les collaborateurs hein, qui pourront aussi y trouver toute leur place. Et en cas, nous, ça nous paraît important d'être présent, très pragmatique, bien sûr, mais d'apporter ces niveaux d'exigence qui permettra à l'entreprise de bien évoluer dans une configuration où la dimension familiale est bien sûr prise en compte.
Mais c'est intéressant, d'ailleurs, tu parles beaucoup là finalement d'entreprise familiale parce que c'est une part importante du tissu. J'en profite pour faire un peu de réclame, on est effectivement présent chez PwC sur le segment des entreprises familiales qui nous intéresse énormément et on a publié conduit une enquête, c'est une enquête mondiale dont on a fait la déclinaison française et qui est voilà qu'on a diffusé là ces derniers temps et c'est assez intéressant de voir que ce que tu dis ressort assez fortement autour de l'ancrage régional, le lien entre le terroir et l'entreprise, les valeurs et le respect des valeurs et le respect de la continuité de ces valeurs dans l'entreprise familiale. Et bien évidemment, ce sont des entreprises qui résonnent à très long terme. Alors, très long terme, hein, dans une entreprise familiale, c'est une, deux générations, donc 30, 60 ans, un peu plus. Et on est sur beaucoup d'entreprises qui sont multigénérationnelles. Ce qui, d'une certaine manière, alors effectivement, assure… On est souvent face à des sociétés qui sont extrêmement prudentes, à la fois prudentes, mais avec la volonté de transmettre à la génération d'après une entreprise qui soit au moins dans le même état et qui a pris les bons virages stratégiques. Et beaucoup de prudence aussi dans l'utilisation des deniers, en réalité. Les analyses ou les réflexions qu'on avait, notamment du fait de la période du Covid, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché qui se présentent. Chaussons Matériaux est un bon exemple, hein, puisque l'entreprise a accueilli des actionnaires minoritaires auprès de la famille pour saisir une opportunité qui était Bois et Matériaux. Et un certain nombre de groupes sont aussi dans ce type de raisonnement. Donc, il y a cette vision très long terme, cette prudence, mais également avec un œil sur la stratégie qui est finalement le garant de la pérennité de l'entreprise. Donc je pense que tout ça est intéressant. Ce que montre aussi l'étude, c'est que d'une part, on sent qu'il y a parfois une petite résistance à accueillir des actionnaires extérieurs à la famille. Avec le sentiment finalement que c'est des affaires familiales, il faut que ça reste en famille. Donc, l'investisseur financier a quelque chose de légèrement intrusif finalement dans ce dispositif. Et une autre tendance qui est presque inverse, qui est un début d'ouverture en direction de ressources extra-familiales dans la gouvernance et notamment des administrateurs indépendants pour apporter une vision nouvelle et un peu de sang frais. Voilà, c'était long. Mais
oui, je sais pas si tu le vois. Les réticences sont tout à fait évidentes hein, quand on est dans une entreprise familiale, de se dire qu'il va falloir changer son mode d'organisation, ouais, sa réflexion et accueillir un nouvel associé. Ce n'est pas rien, un associé, hein, il faut créer une relation et être en confiance. Et c'est effectivement un des éléments essentiels. Mais voilà, il faut savoir avec pragmatisme et écoute apporter les bonnes réponses et bien comprendre les enjeux du groupe dans ce contexte familial.
Et si je peux ajouter réticence, mais parfois aussi à l'inverse, attente. Puisque les dirigeants des entreprises familiales, évidemment, ils ont des réticences à avoir un investisseur extérieur rentrer au capital. Pour eux, c'est une démarche qui n'a rien à voir avec les relations qu'ils ont avec leur banque d'une manière générale, alors que finalement, c'est parfois pas si éloigné. Mais en même temps, il y a aussi souvent une attente de quelque chose qui est extra-financier et souvent on discute de ça avec les dirigeants en amont d'une opération, c'est qu'est-ce que vous attendez au-delà de moyens financiers plus conséquents de la part d'un investisseur qui rentrera à votre capital hein. Et souvent il y a une attente de ils vont nous aider à réfléchir un peu différemment, ils vont apporter un regard un peu différent sur ce qu'on fait, ils vont nous aider à structurer un peu un certain nombre de process qui sont aujourd'hui un peu artisanaux. Et même sur des entreprises de taille assez limitée, l'apport d'un investisseur financier extérieur, qu'il soit en minorité ou en majoritaire, permet justement d'apporter une vision très différente. Alors parfois ça peut être un peu conflictuel, mais souvent c'est une vraie valeur ajoutée. Moi j'ai un exemple d'une entreprise familiale où finalement, quand un investisseur financier est rentré au capital, au début, ils avaient l'impression de voir évidemment des gens assez jeunes qui les remettaient en cause et qui arrivaient, qui analysaient leur business dans Excel en disant ils ne regardent qu'Excel et ils me rapportent des ratios que je comprends à peine. Mais finalement, avec un petit peu de recul, ils se disaient bon, moi, en tant que dirigeant, je suis assez convaincu qu'on ne peut pas gérer une entreprise que comme ça, que par Excel. Mais finalement, entre ma vision et la leur, ils me remettent un petit peu en question, ils m'apportent une vision un peu différente et on peut être complémentaire. Et du coup, là-dessus, ça peut être intéressant. Moi, j'ai souvenir d'une entreprise dans les produits de toiture sur laquelle on avait travaillé il y a quelques années, où finalement, le dirigeant n'avait jamais regardé son compte de résultat. Pour lui, c'était un truc pour le comptable une fois par an. L'EBITDA ou le résultat d'exploitation, c'était des notions dont il ne se préoccupait pas. Il lui disait, moi, j'ai trois critères. Je regarde les ventes, le stock et le cash. Et ça fait 40 ans que je gère mon business comme ça. Et avec ces trois indicateurs, je sais exactement où j'en suis, quand je suis bien, quand je ne suis pas bien.
Écoute, Geoffroy, c'est pas plus mal. Parce que je pense que là, tu touches du doigt les trois indicateurs qui, en réalité, existent toujours dans les entreprises, quelle que soit leur structuration, en réalité. Tu as toujours une facturation, tu as toujours du cash. Et tu as toujours de la prise de commande et du stock. Et voilà. Alors, s'il avait pu regarder un peu plus les délais de paiement de ses clients, ce serait encore mieux. Mais en réalité, il n'a pas nécessairement besoin d'avoir un reporting.
Dans la réalité, ils s'en fichaient, puisque comme le disait Thomas au début, parfois, dans des entreprises familiales, le patrimoine de l'entreprise se confond avec le patrimoine du dirigeant. Et lui, il avait à peu près un an de stock, en disant de toute façon, mon patrimoine, qu'il soit sous forme de stock, de cash, dans l'entreprise ou chez moi, ça ne change pas grand-chose. Donc, il n'y avait pas du tout de gestion optimisée du BFR tel qu'on peut l'entendre quand on est un investisseur financier, mais c'était la façon dont ils géraient leur business, eux. Et du coup, c'est là où notre rôle prend tout son sens, parce que on n'est pas là pour... Enfin, c'est ni mieux ni moins bien. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un, le dirigeant d'une entreprise familiale qui est comme ça, veut avoir des discussions avec des investisseurs financiers, on va être obligé de reconstituer un petit peu de comptabilité analytique, parce que malheureusement, les gens comme Nathalie ne vont pas se contenter de ces trois indicateurs pour analyser l'entreprise. Et donc là, nous, on a un vrai rôle de facilitateur et de pédagogie. Enfin, et je reprends un petit peu ce qui a été dit juste avant. Les maîtres mots de ce segment, c'est patience et pédagogie. Et la pédagogie, elle est vraiment importante parce que le dirigeant, son entreprise, elle marche très bien depuis un moment avec ces trois indicateurs. Et finalement, il peut se dire, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'un investisseur va rentrer à mon capital, on changerait les façons de faire, etc. Mais c'est à nous aussi d'expliquer que, un, pour faire rentrer un investisseur, il y a un certain nombre de besoins qu'on va l'aider à externaliser, et que deux, ça peut vraiment apporter un autre regard et une dimension différente à l'entreprise. Enfin, il faut pas oublier que pour un investisseur, vraiment, assez souvent, on l'a dit, hein, c'est sa première et unique opération, peut-être qu'ils ont fait des toutes petites acquisitions, mais c'est quand même pas la majorité, et que du coup, on a besoin de les aider. Et ce qui est intéressant pour nous aussi en tant que conseiller M&A, c'est que finalement, quel que soit le côté où on se trouve, on a ce rôle-là. Parfois, on conseille un groupe à l'achat qui regarde une entreprise familiale. Et finalement, évidemment, on défend les intérêts de notre client, mais notre vrai rôle, c'est de faciliter la discussion et la compréhension entre les deux, plutôt que d'aller directement dans une négociation de marchand de tapis. Parce que il y a un autre point qui est important à garder en tête, c'est que ces dirigeants d'entreprise familiale, ils peuvent être inexpérimentés sur des opérations de M&A, et on a beaucoup de choses à leur apporter sur l'expérience. Après, très souvent, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont du bon sens, ils ont une expérience de négociation, ils ont une expérience de rédiger des contrats, et donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils savent faire très bien, et sur lesquelles voilà, on travaille en collaboration, main dans la main, et on n'est pas là pour leur apprendre quelque chose dont ils connaissent absolument rien. Voilà, bon, et après, mais ce dont il faut être conscient, c'est que là, on est dans un monde un peu idéal, mais souvent, ce sont des gens qui ont des ressources contraintes, à la fois des ressources en termes de timing, en termes de personnes capables de soutenir le process, et puis en termes de ressources financières en fonction de la taille. Donc, ça peut avoir un impact. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que t'as observé aussi, Philippe.
Ben ça, on le voit effectivement quand on est dans la phase d'exécution des opérations, qu'on soit côté acquéreur, c'est-à-dire accompagner un fonds ou un investisseur stratégique et à poser des questions à la cible, on sent qu'à un moment donné, il y a des goulots d'étranglement parce que en face, ben, la ressource est limitée. On est souvent sur des fonctions je dirais centrales qui sont ou une équipe de management qui est extrêmement resserrée. On n'a pas nécessairement d'ailleurs un directeur financier à proprement parler. Donc c'est ce que moi j'ai coutume d'appeler les environnements imparfaits. Donc voilà, c'est une donnée fondamentale de ce segment de marché. Il faut savoir jouer avec, l'accepter dans une certaine mesure, parce qu'effectivement après il y a, je pense, les exigences de nos clients qui sont importantes, et effectivement ça n'empêche pas de faire une opération, mais c'est important aussi, si une entreprise veut continuer à se développer, à la structurer au fur et à mesure qu'elle se développe. Mais voilà, donc typiquement, on est sur ces problématiques de contraintes de goulot d'étranglement, avec à la fois un dirigeant qui est partout, qui est le point de passage de beaucoup de choses, et avec aussi un directeur financier qui traite à peu près de tout, que ce soit du juridique, du financier, du fiscal, ce qui rend les choses un peu plus complexes. Autour de ça, là, si je m'en tiens uniquement à la partie financière, les aspects financiers sont à la fois entre les mains de celui qui fait office de directeur financier ou du directeur financier s'il y en a un, et de l'expert comptable, qui est également un homme clé, et d'ailleurs souvent un conseil important des dirigeants, et voilà, qui nous apporte un certain je dirais un peu de bande passante et un relais sur les aspects purement financiers, mais en réalité plutôt comptable que financier. Donc ça, c'est pas un substitut ni de dirigeant ni de directeur financier, dans la mesure où nos analyses portent certes sur de la matière chiffrée, mais pas exclusivement sur de la matière comptable, qui finalement a peu d'intérêt en tant que tel, si ce n'est la traduction de ce qu'est la société et son modèle. Voilà. Et puis, on est là, je me mettais côté acquéreur. Si je suis côté vendeur, on va retrouver un peu les mêmes contraintes, et avec une contrainte supplémentaire aussi, qui fait probablement écho avec ce que Geoffroy disait à l'instant, c'est-à-dire l'expérience et la maturité de ces sociétés sur les problématiques de M&A, et qui font que lorsqu'on est côté vendeur, c'est-à-dire que pour ma part, je serais plutôt accompagné avec une prestation qu'on appelle vendor due diligence, où on est coude à coude avec la société pour structurer, analyser la société de manière indépendante et bienveillante, si je puis dire. Je pourrais développer, si vous voulez, ces deux concepts qui paraissent contradictoires, mais voilà. Et dans ces moments-là, effectivement, on est à la fois face à ces contraintes de ressources en termes de d'être humain, mais également en termes de budget, parce que voilà, on a des prestations qui sont parfois dont on ne reconnaît la valeur qu'en réalité qu'au moment où la mission est finie, quoi. Et donc c'est toujours plus compliqué de vendre quelque chose que nos interlocuteurs connaissent mal. Tout ça fait également, j'en parlais, sophistication de l'information. Le plus souvent, si je fais le parallèle avec des grands groupes, ou des groupes très structurés. Et puis la frontière, moi, je la vois souvent aux alentours de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est peut-être un peu artificiel de dire ça, mais je trouve que, mon observation en termes de structuration de l'information, c'est qu'il y a une vraie différence entre les sociétés de moins de 20 millions et les sociétés de plus de 20 millions. Maintenant, voilà, c'est un peu gratuit de dire ça, il y a tous les cas de figure qui existent, mais ce qui est certain, c'est que là où sur des grands groupes ou des sociétés qui ont déjà été en LBO à plusieurs reprises, on peut s'attendre à avoir une information assez granulaire avec des reportings mensuels, une analyse du chiffre d'affaires sur beaucoup de dimensions, secteurs, clients, avec des SP volume prix, des reportings qui vont jusqu'à la notion d'EBE ou d'EBITDA tous les mois, un suivi du BFR, quoique même dans les grands groupes, c'est pas toujours l'indicateur le mieux suivi. Eh bien, dans l'ensemble, on a évidemment une information qui est beaucoup moins sophistiquée dans les groupes plus petits. Et je pense que voilà, il y a une certaine logique à ça. On parlait tout à l'heure de sociétés très opérationnelles. Donc là, la priorité et le focus, c'est avant tout sur le fait de faire fonctionner l'entreprise plutôt que faire du reporting. De vendre, s'assurer que les marges sont bonnes, plutôt que mesurer a posteriori ce type de critères. D'autant plus que si on est dans la situation où on a un actionnaire qui est à la fois manager, le reporting, c'est un peu entre lui et lui, et donc finalement, il n'en ressent pas véritablement le besoin, jusqu'au jour où un fonds d'investissement arrive et explique qu'on n'est pas obligé d'avoir le même reporting que General Electric, mais ce serait bien quand même d'avoir des choses qui permettent de piloter, de voir devant soi et d'être un peu rassuré. Donc voilà, donc on a ces contraintes qui existent, cette information qui est moins facilement disponible, et bien évidemment, ça nécessite une certaine agilité et une capacité en fait à contourner l'obstacle pour aller chercher l'information là où elle se trouve.
Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a un point clé qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne dès le début de l'opération, y compris les dirigeants de l'entreprise, qu'ils n'ont pas forcément en tête, c'est qu'une opération de ce type-là, ça va prendre du temps, ça va consommer pas mal de ressources, et ils ont toujours leur job du quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont toujours censés gérer une entreprise, que ce soit le dirigeant, le directeur général, que ce soit les gens qui font du commercial ou les gens de la direction financière, qui sont en général les plus exposés et les gens à qui on demande de l'information en permanence. Tout ça, c'est ce qu'ils ont à faire le soir et la nuit, parce que dans la journée, ils ont toujours leur job du quotidien. Ils ne peuvent pas laisser l'entreprise. Donc là, ça c'est un point qui est important à aborder dès le début, parce que souvent, les dirigeants n'ont pas forcément conscience de l'effort qu'ils vont avoir besoin de mettre dans ce process. Et j'en reviens au timing. Ce qui est toujours intéressant, c'est que quand on commence une opération, évidemment, il y a toujours une peur de s'exposer, de se mettre un petit peu en risque, de se mettre un peu en danger. Et clairement, un processus d'ouverture du capital, de transmission, de cession, ça dure plusieurs mois et ça peut un peu abîmer une entreprise parce que ça change un petit peu le point de focalisation de ses dirigeants et qui sont un peu moins sur l'opérationnel, un peu moins sur les grands clients, etc. Et c'est vrai que quand on démarre une opération assez régulièrement, on a des dirigeants qui sont, une fois qu'ils ont pris la décision d'y aller, ils sont très pressés, ils veulent que ça aille très vite, mais ils ne sont pas prêts. Et ils n'ont pas forcément les ressources pour faire en sorte que ça aille très vite. Et donc, c'est là où tous autant qu'on est, que ce soit les investisseurs potentiels, que ce soit les avocats, les conseils en due diligence et autres, on a un rôle pour bien leur présenter les enjeux de l'opération, bien leur présenter les contraintes d'une telle opération, et puis bien se préparer pour que ça fonctionne, et puis définir vraiment l'équipe qui va travailler sur le sujet, parce qu'on a aussi cette crainte de la confidentialité parfois, où le dirigeant veut être sûr qu'il y aura une opération qui se fait avant d'en parler à ses équipes. Et donc hésite à mettre dans la boucle les gens qui pourraient apporter de l'information plus qualifiée et se dit « je vais tout faire moi-même ». J'ai même eu un dirigeant une fois sur une opération qui voulait mettre son directeur financier dans la boucle le plus tard possible parce qu'il n'était pas sûr que l'opération pouvait aller au bout et qui du coup pour constituer la data room attendait que tous ses collaborateurs soient partis et allait piquer les documents dans les armoires la nuit, faire des photocopies, les remettre pour que personne ne s'aperçoive de rien et avait quasiment constitué la data room dans le dos du directeur financier. C'est un exemple un petit peu caricatural mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit. Oui. C'est des choses qu'on voit et du coup on doit les prendre en compte. Et pareil sur les conseils, on a assez souvent des dirigeants qui ont leurs conseils historiques, que ce soit leur avocat ou leur expert comptable, qui les ont conseillés dans leurs opérations courantes depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années.
Y compris leurs déclarations fiscales personnelles d'ailleurs.
Qui ont parfois envie d'être impliqués dans cette opération ou dont le dirigeant a parfois envie qu'il soit impliqué dans l'opération. Et on a aussi cet effort de pédagogie parfois à faire avec ses conseils pour trouver une manière de les intégrer tout en s'assurant que les intérêts de ce client sont quand même bien défendus et que les intérêts de tous les intervenants sont bien entendus parce qu'on a encore une fois ce rôle de facilitateur de deal.
Ouais. Merci Geoffroy. Et donc on le voit, hein, cette confusion entre l'entreprise et le dirigeant. Et on a bien vu en fait les différentes facettes de ce marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, nous étant les investisseurs, les conseils? Assez souvent, que ce soit d'ailleurs pour le compte de fonds d'investissement ou pour le compte d'acquéreurs stratégiques, on nous demande lors des phases de due diligence, au-delà du travail purement technique qui est le nôtre, de porter un avis informé, fondé, factuel sur l'équipe dirigeante au sens large. Est-ce que c'est quelque chose, Nathalie, qui est important, enfin pour toi, pour l'IRDI, d'avoir ce regard-là, ou est-ce que j'ai inventé ça dans mon coin?
Non, pas du tout. Effectivement, c'est souvent même la première question que l'on vous pose, c'est que pouvez-vous nous dire, voilà, sur le dirigeant, comment il s'est comporté avec vous dans le cadre de ses diligences, comment il vous a répondu, comment vous le percevez avec ses équipes. Ce sont des éléments assez importants, effectivement, notamment pour construire la relation. Ces phases de due diligence pour nous sont des moments où on va construire une relation avec le dirigeant. On part où on ne le connaît pas, on essaie quand même d'être toujours très attentif, hein, à l'environnement, notamment on parlait des conseils, il y a des conseils historiques de l'entreprise et du dirigeant. Également, de par notre positionnement, notre ancrage en région. On essaye voilà, aussi d'avoir un historique qui s'est déjà un petit peu construit avec le dirigeant. Mais malgré tout, la vraie relation d'associé se construit à ce moment-là. Et un élément de réussite très important, c'est de s'assurer qu'il y a une compatibilité culturelle et personnelle avec l'investisseur et avec les dirigeants. Ça, c'est un élément fondamental en dehors de toute maison auquel on peut appartenir. C'est très important qu'il y ait effectivement une vraie relation qui se construise et qui soit partagée. Ça nous permettra dans le futur de partager les principaux enjeux de l'entreprise et d'avoir aussi une relation qui s'est construite sur un vrai partenariat et qui sera basée sur de l'écoute, de la confiance, un respect mutuel. Effectivement, notre prisme en tant qu'investisseur, c'est souvent d'aller rapidement sur les chiffres, mais le fait de l'avoir construit auparavant et de faire comprendre aux dirigeants pourquoi nous, nous avons ce regard particulier, et ça nous permet aussi pour plus tard de pouvoir échanger sur les projets, de pouvoir mettre en exergue certains points. Toute cette relation se construit effectivement dès le départ. Et votre regard dans des phases qui sont un petit peu critiques, comme la phase d'audit, hein, on vient auditer, on vient apporter un regard critique sur l'entreprise, son organisation, ses chiffres, etc., est un point de passage qui est important pour faire ressortir certains éléments. Nous, pour mieux comprendre comment fonctionne le dirigeant, comment fonctionne son entreprise, être en capacité de pouvoir s'y adapter, c'est très important. Tout comme le dirigeant d'un groupe familial, souvent, a énormément de bon sens pour conduire son entreprise, même si les process sont moins structurés. Pour nous, c'est aussi important d'avoir ce même bon sens et pragmatisme pour accompagner au mieux dans le partenariat futur. D'autant plus que c'est un partenariat dans la durée, hein, comme je le précisais sur... Sur ce type d'intervention, on est plutôt dans un temps long. Nos durées habituellement qui se situent sur du moyen terme, autour de 5 ans. Voilà, on peut sur des groupes familiaux même aller plus loin dans l'accompagnement et vraiment s'inscrire dans la durée à ses côtés.
Et c'est vrai que pour les conseils, il faut savoir trouver le bon équilibre entre la nécessité d'avancer, de vous éclairer et de poser les questions qui fâchent finalement, tout en maintenant un niveau de relationnel avec nos interlocuteurs société cible qui soit favorable et qui favorise la confiance et l'échange. Geoffroy, je ne sais pas si toi, comment tu le vois.
J'allais rajouter, quitte à parfois prendre les coups et faire le coussin amortisseur.
N'hésitez pas.
De façon à laisser soit une partie, soit l'autre, se défouler un petit peu. Et puis, encore une fois, nous, on est dans ce rôle de préparer une relation. Enfin, je reviens sur ce que disait Nathalie tout à l'heure. Dans 90 ou 95% des fois, l'équipe de direction, c'est le premier critère qui décide d'un investissement, que ce soit pour des investisseurs financiers ou pour des investisseurs industriels d'ailleurs. C'est un point absolument critique. Et on a vu pas mal d'opérations dans lesquelles, finalement, entre l'investisseur et la cible, les discussions portaient sur est-ce que le dirigeant a envie de continuer, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme transition, qu'est-ce qu'il est prêt à apporter, est-ce qu'il a préparé la suite s'il a l'intention de partir à court ou moyen terme. Et c'est vrai que voilà, quand nous, finalement, on va voir un acheteur potentiel en lui présentant une opération et qu'on nous demande si on a un angle, valeur ajoutée à apporter en tant que conseil au-delà des prestations un peu techniques, la première qui nous demande, c'est est-ce que vous connaissez le dirigeant, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire. Nous, on n'est pas là pour faire une due diligence pour le dirigeant, mais d'expérience, on est là quand même pour essayer d'imaginer quelles sont ses attentes et est-ce que ça peut matcher avec tel type d'investisseur ou pas. Donc voilà, c'est vraiment notre, ça fait partie de notre rôle c'est un sujet qu'il faut pouvoir anticiper, parce que tous les dirigeants ne vont pas avec tous les profils d'investisseurs. Et même au sein, par exemple, de la communauté des investisseurs financiers, il y en a certains qui seront plus ou moins compatibles avec, en fonction des profils de dirigeants.
Thomas, de ton côté, qu'est-ce que tu peux ajouter, notamment quand on s'apprête à rentrer en relation avec une société pour, mettons, proposer un accompagnement à la vente de quelque nature que ce soit. Comment est-ce que tu vois ce rôle, cette pédagogie et ton rôle, hein, finalement, cette relation?
Je dirais qu'au final, le rôle de technicien, alors que ce soit du chiffre, du droit ou d'autres du conseil en stratégie, par exemple, passe un peu au second plan, en réalité, dans ces phases-là. Ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est d'avoir une intelligence humaine de l'approche de la personnalité du dirigeant, faire preuve de pédagogie, hein, comme ça a été dit plusieurs fois. Par exemple, ce sont généralement des gens qui aiment comprendre les raisons qui font de certaines demandes qu'on peut formuler, que ce soit dans le cadre d'audit ou dans le cadre de négociation. Donc, il faut vraiment déjà expliquer les raisons qui peuvent amener à des demandes, notamment dans une négociation de juridique, par exemple, sur des problématiques de sortie d'un investisseur, si la feuille de route qui a été agréée avec le dirigeant n'est pas remplie, et qui sont des clauses qui peuvent être vécues violemment, hein, par une personne physique qui expose généralement son patrimoine personnel dans ce genre de cas. Bah, il faut avoir les capacités d'expliquer le rationnel derrière ça, avec des mots simples aussi, parce que ce sont des gens qui sont dans l'opérationnel, qui font tourner un business, qui ont eu beaucoup de succès et qui voient arriver des techniciens, conseil technicien sur un domaine que généralement ils connaissent pas très bien, pas très mal, ou très mal même, qui a ses codes, qui a ses termes, les anglicismes, les structurations de dossiers, toute l'ingénierie financière aussi qu'on attache parfois au fonds d'investissement et à la manière dont ils peuvent raisonner quand on est dans des processus de type CapDev ou LBO. Donc, il y a vraiment, je pense, beaucoup d'humilité aussi à avoir de la part des conseils dans ce genre d'opération, encore plus que dans d'autres, parce que comme Nathalie et Geoffroy l'ont rappelé, on arrive un peu, alors bon, moi j'ai un peu évolué, mais c'est vrai que quand on prend des exemples de PME régionales, arriver en costume trois pièces avec sa cravate et son ordinateur sous le bras et ses tableurs Excel, pour expliquer à une personne qui fait tourner sa boutique depuis 40 ans, qui ne sait pas gérer son BFR, ça peut être mal vécu et ça peut être destructeur de valeur par rapport à l'objectif commun qui est quand même tous d'avoir un dossier, une bonne opération. Donc il faut aussi savoir créer, je pense, de la proximité, que vous soyez conseil du dirigeant ou conseil de l'investisseur. Pas hésiter à avoir un aspect un peu plus méditerranéen, hein, souvent, alors ça dépend des personnalités, mais être moins cyborg que des approches qu'on peut avoir sur plus du large cap où il y a une direction du développement très structurée avec des process, etc. On est vraiment sur de la pure technique financière et contractuelle, et pas hésiter à mettre de l'humain. Et puis il y a aussi la dernière chose qui est fondamentale, hein, dans nos approches en tant que conseil, et ça, Geoffroy, tu l'as dit, mais clairement, on est là pour sauvegarder le lien qui peut exister et renforcer les liens qui peuvent exister entre l'investisseur et le dirigeant. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre forcément à certains moments dans des négociations qui sont tendues, hein, parce que on peut avoir tous les intérêts alignés du monde, il n'en demeure pas moins que on est des êtres de nature différente. Un dirigeant n'est pas un fonds d'investissement ou un investisseur. Et on commence à parler de sujets qui fâchent, hein, je les évoquais, des sujets de sortie, des sujets de rachat, des sujets d'exposition. Ben là, c'est le rôle du conseil de prendre un peu le mauvais rôle, en fait, hein, très clairement, pour aller dire les choses de manière très franche et qui sont parfois mal perçues, pour sauvegarder en fait une relation et pérenniser la relation entre le dirigeant et l'investisseur. C'est vraiment le côté punching ball ou fusible qu'évoquait Geoffroy et qui est quand même fondamental. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'il faut aussi s'adapter, je pense, à la taille et au comprendre, quelle que soit notre technicité, technicien du droit, du chiffre, enfin, comprendre l'entreprise, ses enjeux, sa dimension et adapter aussi nos demandes et nos grilles de lecture, c'est ce que tu disais, Philippe, par rapport à ce que l'entreprise peut donner. Alors certes, l'information est souvent plus granulaire, moins structurée, moins fine que dans des groupes de taille plus importante, mais on a aussi des business models qui, sincèrement, généralement, sont quand même plus simples et qu'on peut appréhender avec pragmatisme et de manière macro, sans avoir forcément besoin d'une vision hyper détaillée de certains éléments qui, sincèrement, au regard de la taille de l'entreprise et du business, ne se justifient pas. Donc, il y a aussi l'intelligence des conseils, de savoir adopter leur grille de lecture et leur approche souvent très standardisée. Hein. Soyons honnêtes, il y a quand même un côté un peu, il faut cocher la case d'un certain nombre d'analyses à des réalités, comme tu le disais, parfaites. Les mondes qui ne sont pas le monde.
Les environnements imparfaits. Non, mais en fait, c'est le grand paradoxe, effectivement, de ce segment de marché. C'est-à-dire que la finalité à la fin est toujours la même. C'est-à-dire qu'il faut se rassurer sur une équipe de management, un modèle économique, une valeur d'entreprise qui est déterminée souvent par un certain niveau de BE ou d'EBITDA, voilà, comprendre quelle est la dette parce que celle-ci, on ne va pas l'assumer, etc. Voilà. Donc, le point d'arrivée est à peu près le même, sauf que le chemin pour y parvenir est un peu plus tortueux parce qu'on n'a pas nécessairement toute l'information à disposition pour arriver à ça. Et pourtant, alors certes, on n'a pas en tant que conseil une obligation de résultat, mais on a quand même une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire que baisser les bras et expliquer qu'on ne sait pas calculer un BFR normatif parce qu'il n'y a pas de BFR mensuel dans la société, c'est un peu compliqué. Nathalie aura besoin de ça pour comprendre comment elle doit positionner son prix et comment elle doit formuler son offre. Donc, ça nécessite aussi des gens qui sont câblés peut-être un petit peu différemment, aller trouver l'information là où elle se trouve, aller contourner les obstacles, passer par la fenêtre quand on ne peut pas passer par la porte. Enfin, voilà, j'arrête là les images, mais c'est tout le côté d'ailleurs très amusant hein, de notre métier sur ce segment de marché-là, parce que ça fait fonctionner un peu la créativité, l'ingéniosité et la débrouillardise pour aller trouver l'info. Dans un contexte où Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Les modèles économiques sont pas nécessairement plus simples. Hein. On a parfois des modèles économiques qui sont en réalité compliqués et avec peu d'informations pour véritablement les décortiquer. Alors, c'est pas le cas tout le temps, mais on peut être face à beaucoup de complexité sur un objet qui est finalement relativement petit, plus petit. On parlait de pragmatisme, d'organisation, effectivement, ça nécessite aussi de s'adapter, d'adapter notre état d'esprit à ce qu'est l'entreprise, ses ressources, tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, et se dire, quand on fait une demande d'information, éviter de partir avec une liste de 15 pages qui va non seulement être contre-productive, renvoyer cette image des horribles consultants très intrusifs et puis créer du stress, en fait, et un stress véritablement inutile parce que finalement, c'est assez contre-productif quand on commence à avancer de manière un peu trop systématique. Donc, probablement beaucoup plus de travail, d'orfèvre, j'irai pas jusque-là, j'ai un peu plus de mesures que ça, mais en tout cas, d'adaptation aux situations. Donc on parlait de simplicité, effectivement, dans les approches, et je pense que c'est important. Une opération, peut-être que me tourner vers Geoffroy là, cette fois-ci, est-ce qu'on peut dire qu'en moyenne, et puis vers Nathalie finalement, est-ce qu'en moyenne les opérations sur ce segment de marché, est-ce qu'elles sont plus longues, plus courtes, est-ce que ça a un impact sur le processus dans son ensemble?
Elles sont plus longues par définition, surtout si on les compare à un EBO quaternaire où une entreprise passe d'un fonds à un autre, surtout ces derniers temps où il y avait un certain nombre de processus qui étaient préemptés. C'est plus long, mais j'ai envie de dire, le rôle des conseils, c'est de faire en sorte que la société soit la mieux préparée possible pour que le processus soit le plus court possible à partir du moment où on appuie sur le bouton. Et je m'explique, on a déjà pas mal parlé de la disponibilité, des ressources, pas forcément la qualité, la granularité de l'information financière. Il y a aussi tout un travail, finalement, quand on ouvre son capital ou quand on transmet son entreprise, c'est avant tout un travail marketing. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur comment est-ce que je veux positionner mon entreprise, comment je veux la présenter, comment avec l'aide des conseils, puisqu'il y a un vrai travail de définir les points forts, définir potentiellement les points d'attention, les points de faiblesse, et puis voir comment on les présente, comment on les atténue au maximum. Moi, j'ai souvent tendance à dire il faut prendre le temps dont on a besoin pour se préparer tant qu'on travaille en chambre et qu'on n'a pas démarré l'approche des investisseurs. Après, derrière, on est quand même dans un processus sur lequel il faut qu'on ait un certain momentum, parce que de toute façon, les gens qui vont s'intéresser au dossier, encore une fois, que ce soit des investisseurs financiers ou des investisseurs industriels, c'est pour eux une opportunité parmi d'autres, et que si pendant le process, ils s'aperçoivent qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas capable de répondre à leurs demandes, qu'à chaque fois qu'ils font une demande, il nous faut plusieurs semaines pour y répondre, finalement, ça va abîmer, ça va atténuer leur intérêt, et ça va compliquer les choses.
Et mettre le doute aussi sur peut-être aussi la capacité de la société à répondre rapidement, la qualité de l'info, etc. Donc garder effectivement ce rythme.
Ouais. Donc tant qu'on travaille en chambre, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à contacter des investisseurs potentiels, là on peut prendre le temps dont on a besoin, et il faut prendre le temps dont on a besoin. Une fois qu'on appuie sur le bouton, il faut faire en sorte, j'ai envie de dire, que l'opération se déboucle dans les 4 à 6 mois, sinon ça complique les choses, ça abîme la société et ça réduit les chances de succès.
Et est-ce qu'il y a des techniques particulières dans cet environnement de marché-là, ou au contraire des techniques qu'on utilise dans d'autres contextes qui sont pas véritablement applicables, voilà. Est-ce que sur l'aspect purement technique, qu'est-ce qu'on peut en dire sur la fixation du prix, enfin est-ce qu'il y a des
Non, j'ai envie de dire plutôt le bon sens, en fait. C'est souvent plus du bon sens qu'autre chose. Et encore une fois, de la simplicité, les dirigeants ont vraiment besoin... Ils sont dans une zone... Souvent, ils se sentent un peu en situation de faiblesse face à tous les conseils et face aux gens qui sont en face d'eux, qui ont beaucoup plus l'habitude qu'eux de ce type d'opération. Et donc, on a besoin de les rassurer, on a besoin de s'assurer qu'ils maîtrisent tous les enjeux de ce qui se passe et qu'ils ne vont pas louper un truc parce que par manque d'expérience ou par manque de compréhension. Et c'est vrai qu'ils sont souvent en attente de simplicité. Moi, j'ai un exemple concret, il n'y a pas longtemps, où finalement, on était dans une discussion. Alors là, on est dans une discussion sur le prix entre un investisseur et un dirigeant, où il y avait un écart. Bon, on est parfois sur des discussions un peu de marchand de tapis, mais on avait un écart où l'acheteur était à 20 millions et le vendeur était à 25. Et finalement, l'acheteur a commencé à dire... Bon, mais alors peut-être qu'on va faire 20 millions plus un earn-out, plus je ne sais pas quoi, et on va se faire une structuration en fonction de tel et tel critère. Et finalement, moi j'ai trouvé. Enfin, le dirigeant a dit non, arrêtez, on ne va pas commencer à compliquer tout ça. Moi, je ne comprends rien à vos trucs. On fait à 22,5 et puis c'est réglé. Et finalement, bon, là encore un exemple de. Le M&A, parfois, c'est aussi du bon sens et de la négo. Ce n'est pas forcément des qualités techniques extraordinaires. Et la simplicité, c'est vraiment une attente du dirigeant. Donc, je ne sais pas s'il y a des techniques, mais il y a un besoin, en tout cas, de mettre en confiance le dirigeant.
Nathalie, je ne sais pas si ça te parle, tout ça.
Oui, effectivement, par expérience, je ne dirais pas que c'est plus complexe, mais c'est forcément plus long parce que souvent, le dirigeant, c'est sa première et seule opération qu'il va réaliser. Il y a forcément un temps dédié à acquérir une certaine courbe d'expérience de cette opération. Avoir la pédagogie nécessaire, ça prend du temps. Il y a toute cette dimension humaine dont on a parlé. Donc, il y a effectivement cette gestion du temps qui est nécessaire pour conforter le dirigeant dans sa décision de faire rentrer un nouvel investisseur. Alors ça, ça peut s'anticiper et notamment, là, c'est le travail des conseils que de très bien préparer le dirigeant à tous ses enjeux, de le faire réfléchir à ses attentes pour qu'il puisse aussi lui présenter les bons interlocuteurs, les bons intervenants qui sauront s'adapter à l'entreprise, l'investisseur qui va bien correspondre à ce qu'il attend. Voilà, il y a des profils différents. Il faut s'assurer également d'une bonne compréhension des projets, que les différents intervenants soient complètement alignés sur la stratégie qui va être présentée. Il faut également, dans cet élément de pédagogie, de également apporter aux dirigeants que l'investisseur soit capable d'élaborer des montages et une ingénierie financière qui soit tout à fait adéquate et qui, effectivement, ne complexifie pas les schémas d'intervention. Nous sommes capables de beaucoup d'ingéniosité. Donc, des fois, il faut savoir aussi nous réfréner. Et donc, c'est tant le travail des conseils de bien préparer leurs clients et de leur apporter toute cette pédagogie nécessaire, de leur faire acquérir une certaine courbe d'expérience, de savoir leur présenter voilà, l'investisseur qui correspondra au projet. Et puis, nous aussi, de notre côté, de savoir, encore une fois, s'adapter au projet, s'adapter à cet environnement. Souvent, on peut des fois avoir un petit écueil sur la compréhension de la valeur que l'on donne. Hein. Nous, on réfléchit en valeur d'entreprise, par exemple, pour être assez concrète. Une valeur d'entreprise, ce n'est pas forcément la somme que le dirigeant touchera, mettra dans sa poche. Hein. Il faut tenir compte de la dette, de l'endettement net de l'entreprise. Alors, on prend en compte des éléments de normativité, on va retraiter des éléments exceptionnels, on essaye d'avoir une lecture des enjeux de trésorerie et de génération de flux assez pointus pour déterminer la vraie valeur des titres de l'entreprise. Et tout ça sont des mécaniques, effectivement, qui peuvent... pour un dirigeant être assez complexe à comprendre par rapport à un premier chiffre de valeur qui lui est donné. Le bilan qui présente une position de dette ou de trésorerie à un instant T n'est pas du tout le même peut-être le mois d'après parce que le cycle d'exploitation fait qu'il y a des besoins, une saisonnalité qui se creusent différemment. Donc, tous ces éléments, effectivement, peuvent être autant d'éléments complexes dans le discours et sur lequel il faut qu'il y ait une bonne compréhension du dirigeant pour qu'il soit à l'aise sur les enjeux de négociation, hein, puisqu'il y a forcément une part de négociation, comme l'a précisé Geoffroy, et pour qu'on puisse trouver un accord où tout le monde se sente... serein par rapport à l'accord trouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne ne sort complètement satisfait d'une opération. Il y a toujours effectivement un moment où on se rejoint et où on estime qu'on est sur un accord qui est tout à fait gagnant-gagnant, comme on dit, entre le dirigeant et l'investisseur. Et où chacun a fait sa part du chemin pour être dans un environnement où on pourra construire favorablement cette relation. Parce que s'il y a déjà, on part avec des petits enjeux de négociations qui ont amené de la crispation, là aussi, ça peut complexifier après l'opération. Mais nécessairement, effectivement, la dimension du temps est peut-être un peu plus longue. Dans les opérations purement financières, nous sommes contraints à des process extrêmement cadrés, extrêmement serrés, parce que derrière, il y a déjà eu tout un travail de l'entreprise qui a été fait et où on est capable de nous mettre dans des enjeux de temps très, très court. Voilà. La nécessaire. Enfin,
effectivement, je pense que comme tu le dis, dans toute bonne négo, il faut que chacun puisse repartir avec quelque chose et avoir le sentiment d'avoir gagné une petite victoire d'étape, peut-être pas la satisfaction sur tous les points, mais c'est ça qui permet de trouver le bon équilibre.
D'avoir un deal équilibré, oui.
Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Hein. Tu parlais des ajustements de BFR. Alors, on rentre déjà dans la technique, ce n'était pas le but aujourd'hui, mais il y a tout un jargon extrêmement technique, mais qu'on peut expliquer de manière assez pragmatique, hein, et notamment dans ces sociétés avec un dirigeant très opérationnel, il sait ce que c'est que la saisonnalité, il suit son stock, il sait qu'il y a des points hauts, des points bas, des moments où c'est plus compliqué. Donc ça fait partie des concepts qu'on peut aussi un peu dédramatiser, expliquer de manière simple. Mais bien sûr, il faut avoir l'habitude de le faire. On parlait de temps et le temps nous est compté. Thomas, tu voulais rajouter un petit mot peut-être sur les techniques.
Tout a été dit. Après, sur les aspects plus techniques, moi, je veux juste rebondir sur deux points très rapidement. Le premier, c'est de dire que la pire des choses qui peut arriver dans ce type de process, c'est de donner le sentiment au dirigeant qu'il est cornerisé, en fait. Qu'on est en train de l'acculer, de le mettre dans une seringue, et c'est quelque chose à laquelle il faut être très très vigilant, parce qu'encore une fois, hein, il peut y avoir des réactions de rejet assez fortes. Après, techniquement, oui, il y a des techniques, il y a des pratiques en la matière qui sont parfois un peu différentes de celles qu'on peut observer sur d'autres dossiers. Moi, je pense qu'il faut nécessairement garder une forme de simplicité, et c'est vrai que si on peut avoir des constructions, notamment de prix, de titres, parce que comme vous l'avez dit, le passage de la valeur d'entreprise au prix de titre, le dirigeant n'a peut-être pas forcément appréhendé cette dimension. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va toucher. Donc, il faut avoir une approche sur la valorisation et sur les prix de titre assez simple. L'idéal, c'est de lui dire, voilà, vous allez toucher tant si telle et telle condition sont réunies. Donc, aller sur une approche de prix fixe, après, qu'on peut encadrer par des clauses, hein, bien sûr, pour s'assurer que la richesse générée par l'activité est totalement réinvestie dans cette dernière et qu'il n'y a pas de fuite, je dirais, vers le patrimoine personnel du dirigeant. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est aussi, ils peuvent comprendre très facilement qu'une partie du prix peut être versée sous forme de complément ou earn-out a posteriori en fonction de l'activité et de son évolution, notamment dans un contexte post-Covid où il y a quand même encore de l'incertitude sur le caractère soutenu et pérenne de la reprise d'activité qu'on observe de manière générale au niveau de l'économie.
Très bien. Alors, on a quelques questions qui nous sont parvenues. Alors, il y en a une. Quel est le bon moment pour vendre? Question piège. Je peux apporter un élément de réponse si vous voulez.
Il n'y a pas de bon moment parce que ça dépend de tellement de critères. Enfin, il n'y a pas de bon moment. Oui, ce qu'il faut, c'est arriver à essayer d'aligner les planètes, et c'est jamais évident. Mais l'important, c'est de prendre en compte à la fois l'agenda du dirigeant, l'agenda de l'entreprise et le contexte général, et notamment le contexte des investisseurs ou des acheteurs potentiels, en fait. Mmh. Et ces trois éléments sont à prendre en compte parce que les trois sont importants. Et le troisième est en général assez peu réfléchi, enfin, je ne sais pas si pris en compte en tout cas, mais si on veut faire une opération qui soit une bonne opération, il faut vraiment prendre en compte cette dimension. Moi, j'ai en tête une opération sur laquelle on a travaillé il y a quelques années. Alors là, c'était une entreprise familiale dans les logiciels, mais il n'y avait que deux acheteurs pour qui ça pouvait être stratégique. Et ces deux acheteurs, l'un venait de changer de dirigeant et l'autre était en train de regarder une opération de taille très significative. Donc finalement, ni l'un ni l'autre n'avait la bande passante pour regarder cette opération, et ce n'était pas le bon moment pour aller sur le marché. Et ça, c'était quand on a dit ça au dirigeant, il a réfléchi deux secondes parce que lui, il avait pris la décision de céder son entreprise, il voulait y aller tout de suite. Et quand on a ainsi dit ça au dirigeant, il s'est dit, ah mais oui, en fait, finalement, on a tout préparé en interne, mais si en externe, les gens ne sont pas prêts ou ne sont pas intéressés, on va échouer. Donc c'est un point clé, évidemment, l'entreprise doit être relativement prête.
Le bon moment, c'est probablement aussi quand on a devant soi encore de la croissance et des choses à raconter, quoi. Et comme tu le disais, chercher à dissocier malgré tout l'agenda du dirigeant et l'agenda de l'entreprise, c'est-à-dire le moment où le dirigeant est prêt à partir, bah c'est peut-être pas le moment où le bien l'entreprise aurait peut-être dû être cédée avant.
L'entreprise sera mieux valorisée, ouais.
Je dirais que c'est pas forcément dissocié, mais c'est peut-être, si tu veux, recalibrer l'agenda qu'il s'est, pour lui expliquer qu'en réalité, l'agenda personnel qu'il s'est fixé de manière un peu arbitraire n'est pas conforme à la réalité de marché et que son agenda personnel sera nécessairement impacté par ce dernier s'il souhaite pouvoir retirer le maximum de valorisation de l'entreprise, sachant, bon, et c'est pas Geoffroy qui dira le contraire, qu'il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est qu'un process lancé au mauvais moment et qui n'aboutit pas, obère de manière significative et pendant un certain temps la capacité à relancer un process derrière sur la même cible, parce que vous avez dégradé, en tout cas, à tout le moins, l'image de l'actif via un process qui n'est pas arrivé à son terme. Donc, c'est vrai que c'est un point sur lequel il faut savoir se montrer vigilant.
Alors, j'ai deux autres questions, là. Une pour toi, Thomas, et une pour Nathalie, pour finir. La première question, Thomas, c'est comment est-ce qu'on prend en compte les aspects patrimoniaux fiscaux, en fait, qui sont propres aux dirigeants actionnaires cédants de l'entreprise quand, par exemple, on est soit à l'achat, soit à la vente?
Ben, disons, alors, quand on est à l'achat, ce qui est difficile quand on est à l'achat, c'est quand ça n'a pas été préparé au niveau du conseil des vendeurs. Parce qu'on peut se retrouver avec des problématiques fiscales, notamment liées à des engagements de conservation qui peuvent être liés à des attributions d'actions gratuites ou à des pactes, dits des pactes du trail. C'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, le dirigeant en réalité ne peut pas vendre sous peine de prendre des pénalités fiscales très très importantes. Donc c'est vrai qu'à l'achat, on se retrouve parfois à faire un peu d'équilibrisme en décalant une partie des acquisitions à la fin des périodes de conservation, en essayant de trouver tout un tas de mécaniques juridiques qui permettent de décaler ça. C'est pour ça qu'encore une fois, et on en revient à ce que disait Geoffroy, toute la partie avant le process concurrentiel et qui représente bien sûr l'analyse de l'entreprise, mais il y a aussi un chantier de structuration patrimoniale du dirigeant qui doit être organisé, et par leur conseil. Et c'est vrai qu'on a parfois des dirigeants qui sont accompagnés par une typologie de conseil qui les suit depuis le début de leur vie professionnelle, mais qui n'est pas toujours adapté à la taille à laquelle arrive la société. On se retrouve parfois à devoir gérer des problématiques un peu complexes.
Ok. Nathalie, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement peut apporter à part de l'argent?
Merci pour la question. Effectivement, en plus d'assurer les besoins nécessaires au développement, je pense que l'investisseur apporte déjà une capacité de partager les enjeux de l'entreprise. Et quand un dirigeant fondateur est seul depuis toujours, on sous-estime souvent cette envie de partager les enjeux, même s'il ne demande pas forcément l'accord pour prendre les décisions, mais ne serait-ce que d'échanger sur la stratégie, de pouvoir avoir un regard extérieur. L'autre élément, c'est aussi d'être en capacité d'accompagner des phases un peu plus structurantes. On parlait des enjeux de transmission. L'investisseur est aussi aguerri à ces moments-là. Également, quand il y a des sujets de croissance externe, on a quand même une certaine expérience dans toutes ces opérations pour aller et négocier les acquisitions et trouver les financements et mettre en place les bons montages. Et tout simplement, oui, c'est s'appuyer sur un partenaire dans la durée, puisqu'on est là quand même pour un certain nombre d'années, qui bénéficie d'une expérience dans le développement des entreprises. Donc, on sait apporter de l'expertise, on sait apporter du réseau, de l'accès à certains marchés. Et c'est tout ça bénéficie aussi à renforcer ce que je disais précédemment, la crédibilité de l'entreprise par rapport à son environnement économique, son environnement interne, à assurer aussi de clarifier des organisations, de la gouvernance qui ne feront que renforcer et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et permettre aux dirigeants de conduire au mieux sa stratégie et son entreprise.
Merci beaucoup, Nathalie. On va s'arrêter là parce qu'il est 11h 1 minute et 11 secondes. Donc, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Nathalie, d'être prêtée au jeu avec nous. Merci à tous les participants qui ont suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou nous contacter. Restez connectés pour la minute qui suit, le temps de compléter le questionnaire de satisfaction. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.
Merci.
Merci, au revoir.